Bonjour pour ce numéro de Rien à voir, Hors les murs, magazine de la rédaction d'Alternante FM, avec la complicité de Patsy, nous recevons Ève Murray-Canfort, Crespa CSU CNRS et Nicolas Rimbaud, ESO Nantes Université, respectivement. Nicolas Rimbaud, mentor en dépassement personnel.
Ça c'est mon homonyme.
Je corrige, géographe. Et notre seconde invitée, Ève Murray-Canfort, sociologue. Nos deux invités, avec Cécile Cuny et Séverine Misset, organisent ce lundi une journée d'études autour de l'exposition « On n'est pas des robots » présentée dans le cadre de la quinzaine photographique nantaise. Rendez-vous de 14h à 18h à la galerie L'Atelier, 1 rue Chateaubriand à Nantes. Bienvenue dans les studios du CHT pour cette émission. Qu'apporte tout d'abord de manière générale la science de l'une à la science de l'autre, puisque l'une est sociologue et l'autre géographe?
Qu'est-ce que la sociologie apporte à la géographie? C'est un peu prétentieux posé comme ça, parce que je pense que Nicolas est un géographe qui s'intéresse à la sociologie et moi une sociologue qui m'intéresse à la géographie, à l'espace en général.
C'est vrai, et je pense que pour faire des sciences sociales, on est obligé de sortir de sa discipline quand on estime en avoir une. Et comprendre les sociétés, et voilà, savoir manier les différentes dimensions des sociétés, finalement, ça amène d'une façon ou d'une autre à être relativement interdisciplinaire. Dans mon domaine, moi je m'intéresse surtout aux espaces urbains. On a un champ qu'on appelle les études urbaines, qui est vraiment un champ interdisciplinaire, où on travaille vraiment de manière très très courante avec des sociologues, des polististes, des historiens, des géographes. Donc c'est pas quelque chose de surprenant pour moi, j'ai toujours travaillé comme ça, donc je travaille aussi bien, enfin je vois pas de différence à travailler avec des sociologues qu'avec des géographes.
Moi c'est vraiment l'histoire locale, parce que j'ai d'abord plutôt en tant que sociologue fait un pas vers l'histoire en travaillant sur des phénomènes situés dans les années 70 plutôt, et c'est en ancrant vraiment mon travail dans une histoire locale en Loire-Atlantique de manière générale et en me passionnant pour ça que la question de l'espace a émergé et que je trouve qu'elle est vraiment particulièrement cruciale quand il s'agit des classes populaires.
Moi aussi, j'ai quand même une histoire qui me rapproche encore plus à la sociologie, parce que j'ai commencé mes recherches sur la question de la production de l'espace, des zones logistiques, des entrepôts, où là, je dialoguais plutôt avec des politistes, avec les questions de l'action publique. Et en tirant ce fil-là, je me suis rendu compte que j'étais en train d'observer des espaces de travail des classes populaires. Et donc, j'ai eu envie ensuite de faire vraiment ma recherche sur la question du travail, et donc à travailler encore plus avec des sociologues avec ce prisme-là.
Mais là, c'est l'intérêt du sujet, mais je pensais aussi au niveau méthodologie, outils utilisés, qui se complètent.
Oui, bien sûr. Après, il faut quand même dire, je pense que Nicolas et moi sommes convaincus de l'intérêt de l'interdisciplinarité. C'est quand même quelque chose qui est encore des fois pas trop fait. Et donc, moi, ce serait un peu prétentieux de dire que je connais toutes les méthodologies en géographie. Je pense que ce n'est pas le cas du tout. Après, il y a quelque chose, quelques circulations. Et moi, c'est plutôt quand même sur la façon d'analyser les choses que la question du territoire, de l'espace, de l'importance de ces dimensions-là a joué. En termes de méthodologie, pas tellement, sauf quand, justement, avec Nicolas, on a fait un travail ensemble où j'ai compris avec lui tout l'intérêt de la cartographie. Mais moi, je serais incapable de faire une carte toute seule, par exemple.
Oui, je pense qu'en général, on appelle les géographes pour l'outil qui est la cartographie et pour la question des données spatialisées. Mais c'est un peu limitatif de dire simplement ça. De plus en plus de sociologues apprennent à faire des cartes, d'ailleurs, pour se passer des géographes. Mais c'est surtout, en fait, l'intérêt est plus théorique, je pense, c'est de confronter des grilles d'analyse. Du côté de la géographie, il faut reconnaître quand même la centralité de la sociologie dans les sciences sociales comme voilà, discipline qui va proposer des grands schémas théoriques qu'on va pouvoir voilà, réutiliser et réinterpréter et compléter avec la question de la dimension spatiale, notamment pour les géographes, entre autres choses. Mais aussi, peut-être, les géographes, la volonté d'aller voir ce qu'il y a autour, un peu plus loin, qui, des fois, peut dénicher des nouveaux terrains qui vont ensuite intéresser ce sociologue, qui ne les aurait pas vus d'emblée avec leur façon d'appréhender les phénomènes sociaux, moins par la marche à pied, par l'arpentage que les géographes.
Après ces considérations générales, intéressons-nous plus finement à On n'est pas des robots, la recherche, à laquelle Nicolas Rimbaud a participé. Dans le cas donc, de cette recherche, on n'est pas des robots, ce sont les sociologues et les photographes qui sont allés vers les géographes ou c'est l'inverse? Et on clôt le chapitre tout de suite.
C'est plutôt ça, oui, oui, oui. C'était au tout début du projet. Il y a eu une rencontre. Alors, je ne saurais pas dire exactement comment ça s'est passé. C'était un an avant que le projet soit vraiment déposé. Donc, c'est le moment de la construction du projet où j'ai rencontré Cécile Queny avec son projet. Je lui ai dit, bah, justement, j'avais fini ma thèse, moi, sur les zones logistiques. Bah, justement, c'est ça que j'ai envie de regarder aussi. Et donc là, j'ai proposé voilà, d'intégrer l'équipe pour avoir aussi une approche cartographique, poser quelques données et puis réfléchir avec tout le monde sur le protocole.
La recherche a débouché sur l'écriture d'un livre et une exposition. On n'est pas des robots. Ouvrières et ouvriers de la logistique. Et donc, le livre est paru chez Créafi. Édition, avec donc pour but de rendre visible une partie de l'univers social de ces travailleuses et travailleurs. La simple publication du texte ne suffit pas, il faut l'image pour accentuer la visibilité. Qu'est-ce qu'apporte de plus ?
C'était vraiment l'idée de cette recherche, c'était que pour vraiment réussir cette immersion dans les mondes ouvriers de la logistique, la restitution et les techniques classiques, on va dire, des sciences sociales ne suffiraient pas à rendre visible ce monde-là et qu'il fallait alors d'une part donner à voir de quoi on parlait entre nous et puis aussi de cette façon-là représenter différemment ce monde social et laisser la possibilité non seulement de donner la parole aux personnes enquêtées, donc avec des larges extraits d'entretien par exemple, mais aussi de montrer qui ils étaient, dans quel paysage quotidien ils évoluent, pour aussi que le lecteur ou le visiteur de l'exposition puisse comprendre quelque chose que les chercheurs n'avaient pas envie forcément de souligner, parce que quand on restitue une recherche d'un point de vue académique, on va retenir ce qui nous intéresse pour la démonstration, mais on ne raconte pas tout. Donc c'est une autre façon de mettre en récit voilà, des mondes qui sont à la fois ordinaires, très ordinaires, mais en même temps très invisibilisés, parce que voilà, c'est des mondes subalternes qu'on ne met pas en avant pour plein de raisons de domination, on va dire.
Quelle est votre définition de l'invisibilité ?
Oh là ! J'ai l'impression que la définition de l'invisible est presque plus simple que la définition du visible. Je dirais que la visibilité, là on l'entend quand on en parle comme cela, la visibilité ça va être des éléments qui font partie des représentations communes de la société aujourd'hui, société française en l'occurrence. Donc par exemple, la visibilité, ça va être ce qu'on peut voir facilement dans les médias, à la télé, dans les productions de fiction, ce que donnent à voir les puissants dans leur mise en scène, que ce soit les élus ou d'autres. Là, on ne voit pas les ouvriers de la logistique dans ces représentations-là, quoique un peu plus, parce qu'en fait, au début, quand le projet de recherche a été fait et le livre est sorti, vraiment, voilà, ce qui se passe dans les entrepôts, combien de personnes y travaillent, à quoi ils ressemblent, où ils vivent, je pense que c'était très peu connu, mais depuis, il y a eu des mouvements qu'on donnait à voir en fait, ce monde-là qui est sorti un peu de la visibilité et qui s'est un peu politisé. C'est notamment le mouvement des Gilets jaunes, où on sait que le profil majoritaire chez les hommes Gilets jaunes, c'était d'être ouvriers de la logistique. Et puis aussi, dans les mouvements sociaux, le fait de vouloir bloquer des entrepôts dans le cadre des blocages économiques, ça a donné quand même de la visibilité et ça rentre dans les représentations. On voit en fait que c'était déjà dans les représentations populaires. Les gens savaient qu'il y avait des entrepôts, qu'on y trouvait du boulot. Donc, comme dans le cas des jeunes, quand ils sont mobilisés, bon, ils ont occupé entre autres ces espaces-là où il y a des ronds-points. Et puis, les militants aussi, syndicaux et puis les mouvements, divers mouvements de gauche, ça s'est rentré dans leur représentation, l'idée que là, il y avait un pouvoir économique particulier et qu'il était intéressant de bloquer.
Je rajouterais sur cette question de la visibilité, justement en lien avec ce que Nicolas vient de dire, que pour qu'il y ait visibilité, souvent, il faut qu'il y ait événement aussi et que justement, les mobilisations sont typiquement des événements et des manifestations qui visent à conquérir une visibilité quand des populations n'en ont pas. Et donc, voilà, c'était juste pour... je pense qu'il y a le côté domination. Est-ce qu'on a le pouvoir ou non d'imposer sa réalité dans l'espace public ? Et il y a le côté événement. Et on voit bien que la visibilité, elle est variable dans le temps. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où des choses sont visibles et d'autres moins.
Et si je dis que vous avez développé le concept de visibilité extérieure ? Parce que vous n'allez pas à l'intérieur de l'entreprise.
Alors, pour ce projet de recherche-là, ça a été un choix de rester hors des murs de l'entreprise assez largement, alors pour des raisons pratiques, mais aussi pour des raisons de recherche, parce qu'en fait, à ce moment-là, il y avait eu 3 thèses récentes, juste terminées ou en cours, qui étaient sur le travail, justement, dans les entrepôts. Donc, les thèses de David Gaborio, Lucas Tranchant et Carlota Benvenu. Donc il y avait moins, il y avait pas une nécessité de recherche. Enfin, en tout cas, on le sentait pas comme ça. Forcément, à revenir dessus. Et photographier l'intérieur aurait été très compliqué en termes de relations avec les entreprises. Donc l'idée était plutôt d'aller voir ce qu'on a appelé le hors-travail. Donc les liens, en fait, avec le reste de la vie quotidienne. Alors évidemment, le travail a gardé une place importante, finalement, dans la recherche. Les enquêteurs en ont parlé. Il y a d'autres réflexions, notamment avec Lucas, David et Carlotta que j'ai cités, sur le travail lui-même, mais aussi le lien avec le hors-travail. Et le travail photographique a été sur l'espace extérieur. Peut-être que je peux en dire deux mots. Il y a deux principaux types d'enquêtes photographiques, on pourrait dire. Le premier, ça a été de l'ordre de ce qui a été appelé comme... Attendez, je retrouve le terme. Observatoire des zones logistiques, si je ne dis pas de bêtises. Je vérifie que c'est bien comme ça que ça a été... Un observatoire photographique des zones, voilà. Donc là, ça a été de photographier ces espaces-là qui sont souvent vus comme des non-lieux et donc de donner à voir un paysage ordinaire des périphéries urbaines. Donc les photographes ont fait ensuite des choix différents, vous pourrez voir ça dans l'exposition pour restituer cela, mais donner à voir en tout cas un regard sensible sur ces espaces-là qui sont des espaces hyper standardisés, qui semblent morts hein, de l'extérieur, où il y a très peu de vie. Même s'il y a beaucoup de gens qui travaillent dedans, ça ne se voit pas vraiment de l'extérieur. Et puis le deuxième travail, ça a été celui des itinéraires photographiques, où là, avec des enquêtés, c'était de faire un tour, on pourrait dire, depuis leur lieu de travail, depuis l'entrepôt, vers leur domicile ou vers un autre espace qu'ils choisissaient et donner à voir leur espace quotidien. Et donc, les gens sont à la fois photographiés, à des portraits, mais aussi l'espace qu'ils mettaient en avant.
Oui, parce que si on met en opposition cette visibilité externe avec cette visibilité interne, il y a des très belles publicités actuellement pour une plateforme logistique où on voit une ouvrière, une salariée, une technicienne, qui est très contente qu'on lui offre une formation. Ça oppose deux types de visions.
Il y a d'ailleurs un ouvrage, c'est cité dans l'introduction, donc Cécile Cuny pourra en parler mieux que moi, parce que j'ai oublié son titre, mais un ouvrage assez récent, qui a moins de 10 ans, qui a reconstitué, à partir des images d'entreprise, un monde logistique idéal, avec des images de ce type-là. Donc ça existe, en fait, il y a déjà eu un travail photographique, entre guillemets, autour de ça. Donc évidemment, là, l'idée, c'est de faire des photos de la même chose, mais ça rend très différemment. Et par exemple, sur les photos d'extérieur, on a aucune photo, on voit bien l'entrepôt voilà, d'une pièce, on voit des bouts plutôt d'entrepôt et on voit tel que ça apparaît quand on le traverse en camion par exemple, si on va aller chercher une commande. Donc c'est plutôt ça l'esprit, alors chaque photographe a fait des choix différents, mais voilà, autour de photographies assez systématiques avec des angles de vue qui donnent à voir en fait la réalité d'un bâtiment dans un environnement plus ou moins paysager, plus ou moins en chantier, plus ou moins en interstice, enfin en relation avec le reste de la ville, plus ou moins séparé physiquement. Et donc ça dépend des zones et les photographies en rendent bien compte.
Dans la recherche, il est utilisé aussi des images proposées par moteur de recherche. Donc ça, c'est une utilisation. Il n'y a pas d'utilisation de photos prises par les salariés de l'entreprise à l'intérieur, sachant qu'on a tous maintenant des téléphones portables. Enfin, je me posais cette question, pourquoi il n'y a pas de photos qui sortent, en fait ?
C'est une très bonne remarque. On pourrait... Imaginez un autre type de recherche où on propose à ces ouvriers de fournir les photos. Je suis sûr qu'ils en prennent pas mal, de plus en plus, et de regarder ça avec eux et de voir ce que ça peut raconter. Voilà, en regardant ça avec eux, ça n'a pas du tout émergé des discussions dans le projet de recherche, j'y avais pas pensé.
Il faudra un journaliste peut-être.
Donc il faut, voilà, c'est peut-être une remarque de journaliste. En tout cas, ça sera une bonne question à se poser lundi. Par contre, peut-être parce que moi aussi je suis plus connecté maintenant qu'avant, mais je vois des vidéos qui sortent notamment sur X, anciennement Twitter, de syndiqués aux États-Unis qui se filment aussi au travail et qui mettent en scène le travail d'entrepôt. Donc j'ai l'impression qu'il y a un petit changement. Donc pour reprendre, je pense qu'il est vrai qu'il n'y avait pas de fierté généralement à être ouvrier dans des entrepôts. Et généralement, dans les discours, c'était souvent l'idée que c'est pas un vrai travail, c'est pas un vrai métier. On fait ça le temps qu'il faut et en espérant pouvoir faire un autre métier, par exemple celui de sa formation. C'est un discours très courant dans la logistique, avec l'idée que c'est pour un temps, on ne fait pas carrière. Et maintenant, en lien, entre autres, enfin, un des liens peut-être, c'est la syndicalisation, avec aux États-Unis une stratégie syndicale plus forte dans ce domaine-là. Voilà l'idée d'avoir une identité aussi d'ouvrier des entrepôts qui n'existait pas, je crois, ou beaucoup plus faiblement avant. En tout cas, une hypothèse.
Je parlais des photos, pas de la vidéo, parce qu'on était dans le sujet de l'exploitation des photographies. Vous, Ève, me réconfort, quand vous avez travaillé sur les femmes de Chantel, elles étaient très fières de montrer leurs photos.
Ça dépend de quoi ? Parce que déjà, moi, par rapport à ce qu'a dit Nicolas, je pense qu'il y aurait aussi une question de droit, en fait. C'est que, du coup, la grosse différence, quand même, entre les photos sur lesquelles moi j'ai travaillé et les photos que les photographes ont produites dans cette recherche ou des photographies que les gens auraient prises de leur espace de travail, c'est que moi, c'est des photos d'archives qui sont classées, qui sont conservées, qui sont libres de droit aussi. Et donc, c'est quand même pas du tout la même réalité quand il s'agit de les publier, voilà. Donc ça, c'est une chose. Et après, en fait, moi, les photos que j'ai pu récupérer sur Chantel, c'est pas des photos de l'outil de travail, par exemple. elle photographie pas les chaînes de montage des soutiens-gorge. Elle se photographie elle-même en train de s'approprier l'usine comme espace de lutte. En fait, moi, la plus grosse partie des photographies sur lesquelles j'ai travaillé, c'est des photos de presse, notamment avec le fond énorme d'Hélène Cailleux, qui était une journaliste photographe à Ouest France.
Je voulais la citer aussi. Voilà. Je voulais citer le livre d'Alain Croix et de Xavier Nérière, Le peuple d'Hélène Cailleux.
Donc ces photos sont vraiment magnifiques et très nombreuses. Et du coup, grâce à la conservation ici et au dépôt de son fond, on a accès à pas seulement celles qui sont publiées, quoi, vraiment à beaucoup de photographies. Mais moi, des photos qui m'ont beaucoup intéressée, évidemment, c'est donc ce que vous avez parlé, c'est-à-dire des photographies prises par les ouvrières elles-mêmes. Et alors, du coup, c'est souvent des photos qui sont faites pendant les luttes, notamment pendant l'occupation de l'usine. Et en fait, c'est pas des photos du travail, c'est des photos de elle en train de dormir dans les bureaux la nuit, c'est elle en train de préparer un repas pendant l'occupation, de jouer aux cartes. Enfin, c'est elle qu'elle photographie plus que finalement... Parce qu'on peut pas dire que les ouvrières de Chantelle avaient vraiment une fierté du travail très marquée. Elles avaient une fierté du produit qu'elles faisaient, parce qu'elles faisaient des produits haut de gamme. Donc ça, c'est une fierté, c'est sûr. Mais le travail en tant que tel, voilà, et c'est bien une particularité, enfin quelque chose qui découle aussi d'une domination de genre, qui fait que justement on a souvent refusé aux femmes la fierté professionnelle, parce que en tant qu'ouvrière de la couture, elles font quand même quelque chose qui est naturellement, avec tous les guillemets qui s'imposent, féminin.
Vous écoutez bien Alternante FM à l'heure du magazine Rien à voir version hors les murs au Centre d'Histoire du Travail en compagnie de nos invités Ève Murray-Canfort et Nicolas Rimbaud, co-organisatrices organisateurs de la journée d'études autour de l'exposition On n'est pas des robots présentée dans le cadre de la quinzaine photographique nantaise. On peut peut-être juste présenter la recherche qui s'est effectuée dans deux pays, une analyse comparative entre la France et l'Allemagne.
Pour présenter l'enquête assez simplement, donc l'idée était de comparer 4 sites situés dans 2 pays différents, 4 territoires où on retrouve beaucoup d'entrepôts. Tout d'abord Marne-la-Vallée, donc à l'est de Paris, avec une enquête sur en particulier un entrepôt situé à Marne-la-Vallée. Toujours en France, au nord d'Orléans, sur la commune de Saran, il y a très grande zone logistique. Vous avez entre autres Amazon qui se situe
Je
là.
Je ne citais pas de nom.
Non, mais c'est pour dire... Il y a d'autres très gros entrepôts, donc c'est une très très grosse zone. Au nord d'Orléans et du côté de l'Allemagne, donc une commune dans la banlieue de Francfort qui s'appelle Ditzenbach, si je prononce bien, et puis une deuxième commune qui est à une centaine de kilomètres au nord de Francfort, qui s'appelle Kassel. Voilà, sur une ville, donc l'idée était d'avoir à la fois une banlieue d'une grande métropole et deux villes de taille plus intermédiaire comme Orléans et Kassel, qui sont des grands centres logistiques pour leur pays, puisque c'est les deux villes qui sont situées à peu près au centre de leur pays. Donc ça, c'est les terrains. Et il y avait deux phases principales, on pourrait dire, sur l'enquête elle-même, qui était d'abord d'aller explorer les zones logistiques elles-mêmes et d'expliquer d'où elles viennent. Donc c'est là où j'ai pu faire mon géographe, expliquer la production de ces espaces-là et les photographier avec les observatoires dont j'ai parlé. Et ensuite, une deuxième phase autour d'entretien d'ouvriers de ces zones-là, d'entretien classique, je dirais, en sociologie, sur le travail et le hors-travail. Et puis ensuite, avec une partie des personnes enquêtées, les itinéraires photographiques pour aller plus loin, en fait, sur la compréhension et surtout la visibilité du quotidien de ces gens-là.
Une équipe pluridisciplinaire de photographes, d'enquêteurs.
3 photographes.
Ça permutait aussi.
Deux photographes professionnels dont c'est le métier central, la source de revenus centrale. Une photographe diplômée qui est sociologue, dont le métier principal, je dirais, j'espère qu'elle ne va pas m'en vouloir pour ça, est d'être enseignante-chercheuse à l'université Gustave Eiffel, mais qui est photographe professionnel également, donc en parallèle de son métier de sociologue.
Avec une chercheuse qui lisse aussi sur l'axe paranoïde, quand elle, de l'extérieur, veut photographier un bâtiment.
C'est ce qu'elle raconte, ouais, être le déclencheur.
J'ai pas cité de nom. Hein.
Le déclencheur de l'idée, parce que comment on en vient à vouloir étudier ces espaces-là? Moi, quand j'ai commencé ma thèse sur les zones logistiques, personne ne comprenait l'intérêt d'y aller. Et c'est maintenant qu'on me sollicite d'ailleurs pour parler de ça, parce que maintenant les gens disent « Ah oui, c'est vrai que c'est intéressant ». Mais alors, quand j'ai fait ma thèse, alors tout le monde trouvait ça absolument ignoble comme sujet. Elle comprit peut-être à ce moment-là, mais à peu près dans ces mêmes années. Donc elle vient plutôt de l'analyse des quartiers populaires, y compris avec de la photo, donc des grands quartiers de logement social. Elle a atterri un peu par hasard sur une zone logistique. En tant que photographe, elle a décidé de photographier cette zone et aussitôt, elle s'est fait arrêter, elle s'est fait interpeller par un responsable d'entrepôt pour lui dire « Attention, secret industriel, on est sur un site d'entreprise, on rigole pas avec ça, les concurrents pourraient voir vos photos. » Et c'est vrai que ce monde-là est assez secret. je ne sais pas s'il a changé, mais j'ai toujours connu comme ça, un peu refermé sur lui-même et une volonté un peu de se cacher, qu'on n'aille pas le déranger en tout cas. Et c'est vrai que moi aussi, sur mes terrains, j'ai très souvent été interpellé en me disant de dégager, de ne pas prendre de photos, etc. Alors que bon, on n'a pas l'impression de pouvoir faire dire grand-chose à une photo d'entrepôt à l'origine.
Ce monde ouvrier, ouvrière, logistique, c'est 13% en France, 17% en Allemagne, grosso modo.
C'est ça, grosso modo. Alors 13% des ouvriers sont dans des entrepôts, on peut dire ça comme ça. Si on compte justement les conducteurs et les conductrices de poids lourds, de camions de livraison, c'est 25% des ouvriers qui sont dans ce monde-là, en élargissant un petit peu le spectre. Donc ça fait en France, c'est autour de 700-800 000 personnes aux entrepôts, 600-700 000 autour de la conduite des différents types de véhicules. Voilà, ça fait donc 1,5 million à peu près en tout. C'est une partie importante voilà, du groupe ouvrier contemporain. C'est à presque autant que dans l'industrie, équivalent au total des emplois dans la construction, voilà, pour avoir des ordres d'idées.
Et ça va croître.
En Allemagne, c'est un peu plus massif.
Et ça va croître.
Alors, ça a beaucoup cru et ça continue sur une croissance, semble-t-il, plus modérée. Mais ça croît un petit peu en proportion, puisque le groupe a tendance à diminuer légèrement avec le déclin de l'industrie, en nombre d'emplois en tout cas. Alors en fait, sur ces histoires-là d'emplois, il y a plusieurs visions. Il y a soit l'idée de forte croissance, parce que l'activité est en croissance. Mais la croissance du nombre d'emplois aujourd'hui, elle n'est pas forcément au niveau de la croissance du chiffre d'affaires d'Amazon, parce qu'il y a aussi des éléments d'automatisation, de robotisation, mais qui ne suppriment pas du tout l'emploi, ça c'est l'autre mythe. Il n'y a pas du tout de remplacement de ces emplois-là par des robots. Voilà. Par contre, il y a certainement une partie de la croissance de l'activité qui est prise en charge différemment avec de la robotisation.
Il y a un profil, des profils d'ouvriers,
oui.
D'ouvrières.
Il y a un profil qui est d'abord masculin, c'est le premier point. On est sur une population à 80% environ masculine à l'image du groupe ouvrier dans son ensemble. On a un groupe un petit peu plus jeune que le groupe ouvrier en général, mais il y a des variations là, selon les régions. On a une part d'étrangers qui est un peu plus élevé que dans la moyenne du groupe ouvrier, mais assez comparable à la moyenne du groupe ouvrier, avec, alors il faudrait que je révise mes statistiques, mais bon, avec une proportion qui est nettement plus élevée en Île-de-France, par exemple, que dans le reste des régions, mais qui renvoie aussi au cosmopolitisme des ouvriers en Île-de-France plus largement.
Avec un turnover important.
Oui, gros turnover, parce qu'énormément d'intérim, une part d'intérim très élevée. Alors, c'est assez compliqué de trouver exactement le chiffre de l'intérim sur le total des emplois. J'avais passé du temps à chercher, mais c'est estimé autour de 20%, on va dire. Mais ça peut monter beaucoup plus. Et dans la saison de pic, par exemple à Noël, on est souvent à 50% d'intérimaires dans les entrepôts.
Et ça, c'est dû aux conditions de travail?
Alors, c'est dû à déjà une politique d'entreprise qui est de favoriser l'embauche des intérimaires pour avoir une grande flexibilité et jouer avec les pics de saison, la saisonnalité. Et ensuite, le turnover plus général de la main-d'œuvre, c'est la difficulté, en effet, c'est la difficulté de ces métiers-là avec un taux d'accident du travail qui est aussi élevé que dans la construction. Il y a eu même des années où le taux était plus élevé que dans la construction, avec beaucoup de troubles musculo-squelettiques, avec donc des gens qui ne tiennent pas, en fait, toujours les postes, beaucoup de casses. Et globalement, voilà, des emplois qui sont quittés quand il y a une alternative, mais il n'y en a pas toujours.
C'est ce que vous relevez dans les témoignages.
C'est ce qu'on relève dans les témoignages, c'est ce qu'on voit aussi dans les statistiques, ouais. C'est ce que les collègues qui ont travaillé dessus ont pu voir.
Et il y a d'autres points aussi?
Sur
le profil ou sur les motivations de départ? Ou les motivations d'embauche?
Sur les motivations d'embauche, je pense qu'il y a des points assez intéressants.
Géographe que j'interroge, ouais.
Je suis en train de réfléchir à ma réponse. En fait, il y a plusieurs profils. Je pense que dans les mondes populaires de la banlieue populaire historique, donc notamment les gens qui vivent dans les logements sociaux de grands ensembles, dans les quartiers périphériques des grandes villes, on sait que c'est des emplois qu'on peut avoir, on sait que c'est un parcours classique. Et donc, il y a cette logique-là, y compris quand les entrepôts sont un peu loin. Donc on voit des figures d'ouvriers qui habitent par exemple en Seine-Saint-Denis et qui vont faire des longs déplacements jusqu'à la Seine-et-Marne pour occuper leur emploi. Ils travaillent là parce qu'ils savent que c'est des possibilités, c'est aussi parce que les agences d'intérim les envoient par là et ils ont des copains, ils ont de la famille qui font la même chose qu'eux. Donc il y a un peu cette logique-là. Mais dans le livre, on a vu une autre logique plus féminine qui était des logiques de captivité sur des bassins d'emploi limités. Donc dans le cadre de choix résidentiels vers le pavillonnaire, pour reprendre à nouveau l'image de la Seine-et-Marne, donc vous voyez ces couronnes périurbaines assez éloignées, où on a un couple qui va acheter un logement, généralement en lien avec l'emploi de l'homme, qui peut voilà, être compatible en tout cas avec le pavillon, si, plus ou moins à proximité. Et donc la femme se trouve plus ou moins captive de cet espace-là. Et dans cet espace-là, quelle opportunité d'emploi? Il y a notamment la logistique, puisque les entrepôts ont été construits de plus en plus dans ces couronnes périurbaines. Donc voilà, notre logique.
Patsy.
Une question d'historien, alors peut-être vous ne pourrez pas y répondre. On a gardé l'idée que l'implantation industrielle, c'est dans les grandes villes. Or, avant 1914, il y a plein d'entreprises assez conséquentes qui sont dans les zones rurales. Est-ce que les lieux d'implantation des entreprises logistiques retrouvent, entre guillemets, un ancien bassin industriel, ou alors c'est complètement déconnecté de cette histoire ?
C'est semi-déconnecté, je dirais. Il y a de ça, mais il y a aussi d'autres logiques. Globalement, les entrepôts, ça sert à la consommation. Ça sert à approvisionner des supermarchés et à faire du e-commerce. Donc, c'est à proximité des grands bassins de consommation, donc là où il y a de la population. Donc, ça peut être les anciens bassins industriels, non pas parce que tellement c'est industriel, parce que la logistique industrielle ne pèse pas si lourd que ça.
C'est pas facile à répondre en tournant le dos complètement à la personne qui vous
mais
interroge.
Mais plutôt parce que les bassins industriels, c'est aussi des bassins de population, tout simplement. Mais plus globalement, donc on va retrouver les entrepôts à proximité des plus grandes villes. Mais autant dans une première phase, quand j'ai regardé ça statistiquement, on a construit les entrepôts dans les zones industrielles existantes, donc on a retrouvé à peu près la géographie des banlieues industrielles issues des Trente Glorieuses, notamment. Dans un deuxième temps, en fait, quand il y a un marché de l'immobilier qui s'est vraiment structuré, bien abreuvé de capitaux, donc il y a une recherche de terrains beaucoup plus grands, et là, on a construit la nouvelle génération d'entrepôts, toujours autour des plus grandes villes, mais là, en limite d'agglomération ou en dehors de l'agglomération, donc du côté du périurbain, c'est-à-dire, donc là, on va retrouver des grandes rocades, des autoroutes, mais aussi des grands terrains, pas trop chers, et c'est là qu'on va retrouver le plus d'entrepôts, ainsi que dans des espaces le long de grands axes qui sont ce que les logisticiens appellent des barycentres, donc qui sont localisés au centre d'un marché à desservir. C'est le cas de l'Orléanais, par exemple. Toute la région entre Orléans et Tours est constellée d'entrepôts pour cette raison-là. Pas tellement parce qu'il y a tant de monde que ça à Orléans et Tours.
Et là où il n'y a pas d'association qui conteste les projets de construction.
Et par conséquent, il y en a de plus en
près
plus.
Près de Nantes, on peut citer Montbert, par exemple.
Mais aussi dans la région centre, pour avoir suivi ça. La région centre, ils se sont structurés et construire un entrepôt maintenant dans cette région-là est devenu difficile parce que les gens en ont marre. Et donc, en effet, c'est aussi dans ces espaces-là qu'on a vu donc, des nouvelles mobilisations se mettre en place. Et celle de Montbert est vraiment emblématique de ces luttes qui ne sont pas des luttes de riverains à proprement parler, mais des luttes d'habitants locaux en coordination avec des grandes associations écologistes et des associations anticapitalistes, notamment ATTAC, qui travaillent beaucoup là-dessus.
Que relève-t-on comme différence quand on compare les sites allemands aux sites français ?
Alors, d'abord, on voit beaucoup de similarités parce que c'est un monde très standardisé avec des emplois, des conditions de travail, une organisation du travail qui est similaire. On est dans le tertiaire, mais un tertiaire industrialisé. Donc c'est d'abord peut-être le fait qu'on est sur des conditions semblables. Mais
oui,
ensuite...
parce que je voulais souligner que c'était intéressant parce que ces sites appartiennent aux mêmes propriétaires au pluriel. Donc,
alors visuellement, les bâtiments sont les mêmes parce qu'en effet, c'est les mêmes investisseurs immobiliers à peu près qui les construisent, qui les possèdent. Donc c'est avec les mêmes logiques, les mêmes types de paysages. Donc on est sur une standardisation, une uniformisation industrielle là pour le coup. Ensuite, la principale différence entre la France et l'Allemagne dans le cadre de cette recherche, c'est la gestion de l'intérim, les différences entre la condition d'intérimaire par rapport à la condition de salarié en CDI, très différente. En Allemagne, passer en CDI, c'est un revenu nettement supérieur à la condition d'intérimaire, ce qu'on n'a pas en France. Donc il y a une logique d'atteindre le CDI en Allemagne qui est beaucoup plus forte et qui fait qu'on a tout un sas et des gens qui vraiment s'accrochent pour obtenir ce CDI-là. Phénomène qu'on n'a pas vraiment à ce point-là en France, puisque le CDI ne se traduit pas par un revenu plus important. Et puis, en Allemagne, sur le moment de l'enquête, on avait affaire à une population beaucoup plus immigrée, avec des primo-arrivants, donc liés au grand flux migratoire des années 2000-2010, qui avait beaucoup plus concerné l'Allemagne que la France. Donc, en fait, en Allemagne, on avait beaucoup plus le cas d'immigrés, avec des difficultés notamment de langue, et des difficultés d'obtention de papiers, de titres de séjour, etc. En France, il y avait des profils comme cela, mais ce n'était pas aussi important.
Vous avez trouvé facilement des personnes pour répondre à vos enquêtes ?
Non, pas vraiment. Il y a eu plusieurs façons de faire. L'idée avait été de passer par demander l'autorisation aux entreprises de venir distribuer des petits flyers pour inviter les gens à participer à l'enquête, mais ça n'a pas forcément très bien marché dans tous les lieux. Et ça a beaucoup passé en fait par des réseaux, y compris par Facebook, pour aller trouver des gens qui travaillent bien dans ce domaine-là et qui seraient intéressés pour parler. Donc la méthodologie a dû évoluer pour réussir à atteindre un nombre d'enquêteurs suffisant.
Pour faire la transition, Eve-Marie Canfort, on va s'intéresser à votre communication, celle de lundi prochain, qui est tout à fait rédigée.
Tout à fait.
Comment vous pouvez rebondir notre petit échange ?
C'est un peu éloigné à plusieurs égards, parce que c'est éloigné dans le temps déjà. Parce que moi, donc, je m'intéresse à une usine qui est aujourd'hui fermée, qui a ses caractéristiques d'un autre temps industriel. Donc de ce point de vue-là, c'est pas du tout un monde standardisé, par exemple, enfin en tout cas pas du tout de cette manière-là. Et moi, j'ai des relations aux enquêtés qui sont différentes, dans le sens où je rencontre des femmes, quasi exclusivement, qui ne travaillent plus, qui sont retraités, qui me racontent leur histoire. Donc il y a tout un enjeu de, voilà, d'histoire, de mémoire et de souvenirs. Donc c'est pas du tout la même démarche d'enquête. Après, il y a la même question de retrouver des gens, etc. Mais voilà, c'est vraiment un autre âge du monde ouvrier et un autre sexe du monde ouvrier aussi. À Chantelle, dans l'usine que moi j'ai particulièrement enquêté à Saint-Herblain, c'est quasi exclusivement des femmes. Mais de manière générale, à ce moment-là, dans l'industrie de l'habillement, c'est une majorité de femmes à plus de 95%, je crois, de mémoire. Et pour ce qui est des gens qui travaillent vraiment à assembler des soutiens-gorge, de la lingerie en général, et des vêtements en général d'ailleurs. Enfin voilà, donc c'est vraiment un autre monde industriel.
Vous écoutez bien Alternante FM à l'heure du magazine Rien à voir version hors les murs au Centre d'Histoire du Travail en compagnie de nos invités Ève Murray-Camphor et Nicolas Rimbaud, co-organisatrices organisateurs de la journée d'études autour de l'exposition On n'est pas des robots présentée dans le cadre de la quinzaine photographique nantaise.
Patsy. Ève, tu te reconnais dans cette phrase de Daniel Kergoat, ouvrière n'est pas le féminin d'ouvrier?
Bien sûr, Daniel Kergoat est quand même une sociologue fondatrice des études sur les ouvrières. C'est bien elle qui, en tout cas en France, a vraiment mis le doigt sur justement la différence d'expérience des ouvrières de la classe ouvrière par rapport à celle des ouvriers. Et quand elle dit ça, en effet, elle essaye vraiment de montrer que l'articulation, disons, des dominations de classe et de genre, enfin que c'est pas juste une addition. C'est pas juste, elles sont ouvriers et femmes, et donc en fait elles sont les mêmes ouvriers que les hommes, et en plus elles sont femmes. C'est que vraiment elles ont, en tant que femmes, une toute autre expérience du travail, de leur appartenance sociale, de leur place dans le monde. Et voilà, à partir de là, elle fait des analyses assez complète sur la question du travail, elle beaucoup. Et donc oui, moi, ça a été une de mes influences premières. Après, voilà, j'ai des divergences, évidemment. Mais c'est sûr que sur ce principe-là, je suis d'accord. Oui.
Pour revenir un peu sur le travail autour de la photo, moi, je regarde la couverture du livre. On voit deux hommes dans un paysage, c'est une plaine. Mais moi qui aime la montagne, c'est terrible comme paysage. À l'horizon, il n'y a pas grand-chose, sinon deux malheureux arbres. Comment vous, en tant que géographe et sociologue, vous analysez cette photo? Parce que, autant le dire, le monde de la logistique, c'est un monde qui est, entre guillemets, plutôt rude, quoi, et qui met à la fois les corps à l'épreuve, mais aussi la psychologie humaine à l'épreuve.
Les hommes sont de dos.
Alors, on voit sur la photo un enquêté et un enquêteur, un sociologue.
Et qui est le plus haut perché, les deux?
Ils sont à proximité d'une zone logistique d'où ils viennent, là. Donc l'enquêté est ouvrier de la logistique. On trouve son portrait normalement à l'exposition, en tout cas dans le livre, mais j'ai un doute, parce que mon souvenir n'est pas très très récent, savoir si on trouve tous les portraits dans l'exposition, si c'est une sélection, et je ne me souviens plus de quelle sélection il s'agit, si c'est une sélection. Et donc ils sont au nord d'Orléans, dans cette très très grande zone, et ils regardent en fait l'extension de la zone à venir, voilà, sur ces terrains agricoles. Et donc c'est ça qui va devenir logistique tout prochainement, et donc la zone logistique se termine là-dessus, on voit que... On a un gros bloc, un peu comme on trouve en bout de chantier. C'est ça que donne à voir cette image-là. Entre guillemets, le futur de la logistique, et c'est pas forcément une image riante.
Et c'est marrant parce que moi, du coup, n'ayant pas du tout ce contexte en tête, la photo, moi, je l'ai plutôt vue comme le vide, quoi. Le vide de ces espaces-là et le fait que les zones logistiques étaient vraiment en frontière de métropole, enfin voilà, en frontière de ville, et qu'après les zones logistiques, il n'y a plus rien, quoi. En tout cas, cette photo, je la trouve vraiment... très parlante aussi de ce point de vue-là sur ces deux hommes. Donc moi, je ne savais pas qu'il y avait un enquêteur dans l'eau, mais qui regarde l'horizon, qui regarde ailleurs, quoi, et qui laisse la zone derrière. Enfin voilà, après, on peut imaginer plein d'histoires.
Et tu penses, lequel a le plus d'avenir? Un chercheur en sciences sociales dans le monde tel qu'il est ou un ouvrier de la logistique?
Je pense quand même que, quand bien même les conditions de travail à l'université sont très difficiles, et c'est pas moi qui vais dire l'inverse, il ne faut quand même pas non plus annihiler toute question de capital culturel et de capital social. Qu'un chercheur en sciences sociales aura quand même probablement plus.
Une position professionnelle qui est quand même plus confortable objectivement, hein, voilà. Et des revenus qui sont nettement supérieurs. Et donc il doit gagner près de deux fois plus l'enquêteur là, parce que je sais quel emploi il occupe que l'enquêté de cet ordre-là. C'est pas mirobolant, mais il a une vie plus confortable.
On va conclure par la présentation de la journée d'études ce lundi. Juste alors, le titre de votre communication, Ève Murray-Camphor, c'est « Représentation et invisibilité des travailleuses, images des filles de Chantelle ». En lutte, invisibilité, le IN est entre parenthèses, commentaire.
C'est justement pour questionner cette question de ce que, comme Nicolas l'a dit au début, je suis d'accord que l'invisibilité est quelque part plus facile à appréhender quelque part souvent que la visibilité. Et que vu que je vais parler de la mise en visibilité de groupes professionnels invisibles, c'était un peu l'idée.
Donc un programme avec une communication de Cécile Cuny, Eve-Marie Canfort, Thibaut Menou et Claire Burban. Les quatre communications qui se complètent. Vous l'avez co-organisé.
C'est plus moi.
Juste pour présenter, là, pour donner envie de...
Complètement.
Parce que ça se termine par la journée, se clôturera par un pot, mais ça ne suffit pas pour motiver.
C'est quand même bien de le noter. Ça se passe sur le lieu de l'exposition, je ne sais plus si on l'a dit, cette journée d'études, donc dans la galerie, l'atelier.
Qui est un très beau lieu. Rien que ça, ça vaut le coup, c'est des anciennes écuries.
Et donc après avoir visité l'exposition, donc à 14h, il y a quatre interventions. La première, c'est autour de la recherche en EHPAD des robots, donc avec Cécile Cuny et une partie de l'équipe, photographe et sociologue qui sera là. Et ensuite, on a, donc après l'intervention d'Ève, je crois que tu es en numéro 2, enfin tu en as parlé. Ensuite, on a Thibaut Menou qui vient parler d'une expérimentation pédagogique qui fait lien entre photographie et sociologie. Donc on reste sur la réflexion sur le lien entre photographie et sociologie ou enquête en sciences sociales. Et puis enfin, la dernière présentation est faite par une jeune chercheuse qui ne va pas parler de photographie ou de manière un peu anecdotique, mais qui va parler d'une autre figure du groupe ouvrier, que sont les livreurs de repas qui travaillent en tant qu'indépendants pour des plateformes comme Uber Eats et Deliveroo. Donc voilà, une version très très précaire et également aussi très racisée, au sens où on a presque exclusivement des immigrés, et notamment des immigrés très récents sur le territoire, qui font ce travail-là, qui est un travail très difficile. Voilà pour la dernière intervention. Et il n'y aura pas beaucoup de lien avec la photo, parce que c'est aussi des gens qu'il faut protéger. Et donc, ça serait très injuste de les photographier aujourd'hui, sachant qu'ils ont souvent des problématiques de papier.
Mais je pense qu'une thématique intéressante de cette journée-là, ce sera au-delà de ça, justement, au-delà de la photographie en tant que telle, ce sera la question justement des images, des représentations, des visibilités de ces groupes ouvriers hier et aujourd'hui. Oui. Et ça, ce sera vraiment intéressant entre les différentes communications pour réfléchir à comment est-ce qu'on met en visibilité des groupes qui n'ont pas forcément envie toujours d'être mis en visibilité. Donc voilà, comment est-ce qu'on respecte la dignité des personnes et on met en valeur leur expérience et leur point de vue à eux aussi. Voilà. La question du point de vue des photographes, des enquêtés, tout ça. Enfin, ça va être intéressant, je pense, comme échange.
Mais c'est vraiment ça l'idée.
Dans l'exercice de votre profession, combien de tâches répétitives, automatiques effectuez-vous ? Est-ce que vous vous sentez quelque part un peu robot ?
Oh oui. Il y a plein de tâches répétitives et routinières autour de la gestion des formations à l'université. D'ailleurs, il y a une bureaucratisation de ce travail-là qui est forte, où on a des tableurs Excel divers et variés à remplir. Donc ça, c'est bon, c'est une réalité. Peut-être aussi que la recherche, il y a une dimension routinière un peu incontournable. C'est un travail de fourmi, de faire du terrain. Et donc, il faut être prêt à refaire plein de fois des entretiens, à refaire plein de fois des relevés, à revenir, à remettre ses notes au propre, soigneusement, à remplir des tableaux de données. Et donc, oui, voilà, il y a une partie un peu robotique ou ouvrière, en tout cas, du travail. Et il ne faut pas le nier et il faut bien le faire. Et quand on le sous-traite pour aller plus loin, quand on gagne du galon et on se dit « moi, j'ai plutôt managé la recherche plutôt que faire moi-même de la recherche de terrain », je pense qu'on perd quelque chose et on perd une capacité à interpréter, en fait, le monde social.
Oui, je pense que contre la représentation de grands intellectuels qui vivent dans le monde des idées, les chercheurs en sciences sociales, ou si je me permets, les bons chercheurs en sciences sociales, sont plutôt des artisans qui vraiment travaillent une matière et qui essayent d'en tirer des analyses. Mais c'est beaucoup les mains dans le cambouis aussi, et dans le doute et dans la collecte des matériaux, que la qualité de la recherche va se jouer.
Le développement de l'intelligence artificielle vous angoisse ?
Ça interroge.
Ça sera le mot de la fin.
Ça oblige, surtout du côté enseignement, à vérifier quel type de sujet on soumet aux étudiants pour éviter que ce soit trop facile pour ChatGPT. Après, sur certains aspects, on me dit que c'est très très bien d'utiliser ChatGPT pour faire de la programmation et notamment utiliser des logiciels statistiques par la programmation. Et donc, c'est voir que je travaille avec ChatGPT un peu plus pour être meilleur dans mon métier.
C'est pour ça que moi, je cultive l'idée qu'on peut aussi animer une émission en savonnant un peu pour dire que ça reste un peu humain, quoi. Vous êtes d'accord avec moi ?
On est d'accord.
Allez, je rappelle donc la journée d'études autour de l'exposition « On n'est pas des robots », présentée dans le cadre de la quinzaine photographique nantaise. Le rendez-vous est à 14h à la galerie L'Atelier, 1 rue Chateaubriand à Nantes. L'entrée est gratuite.
Oui, et c'est le lundi 23 octobre.
23 octobre, je l'ai pas... Ah oui, je n'avais pas noté. Comme quoi, le copier-coller...
C'est pas ChatGPT qui aurait oublié ça. Hein.
Merci à Ève Murray-Canfort et à Nicolas Rimbaud pour leur libre participation à ce numéro de Rien à voir hors les murs, magazine de la rédaction d'Alternante FM. Nous étions installés au Centre d'Histoire du Travail. Merci à Patsy, à la fois pour le côté visible, audible, devrais-je dire, de sa co-animation et pour le côté invisible de sa maîtrise technique. Sans cette part d'ombre, nulle émission.